On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Le Beaufortin est renommé pour avoir souvent de la pluie, on a souvent de la flotte, donc on a toujours de la belle herbe verte. Sud été a tendance à être plus goûteux, parce que les vaches ont vraiment, elles mangent vraiment plus que des belles fleurs, des violettes, des belles prairies vertes en montagne, en alpage. Après, ce qui fait la différence de goût, c'est que l'hiver, bon, qu'elles sont au foin, mais c'est pas qu'il est moins bon, c'est une différence de goût. Et puis bon, on l'utilise aussi dans les plats, parce qu'on peut faire plein de choses avec le Beaufort. Hein. On peut cuisiner, maintenant on cuisine de plus en plus avec.
Un sablé de Beaufort, une petite crème au Beaufort en espuma. Ça reste agréable à manger comme ça avec un morceau de pain.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster, un plateau qui accueille aujourd'hui l'un des plus grands fromages de France, à la fois par la taille mais aussi par la qualité. Il est savoyard et c'est le Beaufort. Comment le prince des Gruyères, comme le surnommait Brillat Savarin, est devenu aujourd'hui une réussite à la française. Une réussite qui allie respect du terroir, succès social et économique, responsabilité écologique. On en parle avec un duo père-fille très impliqué dans la filière Beaufort. Je demande tout d'abord le père, Yvon Bochet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes levé assez tôt ce matin ?
Relativement tôt, mais pas plus que d'habitude, à part que j'ai zappé la traite.
C'est ça, oui, vous avez zappé la traite pour prendre le TGV depuis Albertville et pour nous rejoindre dans le studio dont on va déguster. On en est très heureux. Vous êtes le président de l'Union des producteurs de Beaufort et de la coopérative du Beaufortin. Vous êtes également éleveur et producteur de lait à Beaufort avec votre frère, je crois.
Avec mon frère, exactement, oui.
Et comme vous avez décidément beaucoup de casquettes, vous êtes aussi président de la commission de l'INAO pour le camembert. Ah, voilà, ouais. On sait que contrairement au Beaufort, l'appellation camembert est très secouée en ce moment. Vous n'allez pas éviter quelques questions sur l'évolution de ce célèbre fromage normand. Dans la famille Bochet, je demande aussi la fille, Alice. Alice Bochet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes née dans une meule de Beaufort, j'imagine?
À peu de choses près, oui.
C'est ça, et vous défendez les couleurs de ce fromage à Paris à la tête du magasin de la coopérative laitière du Beaufortin. C'est 9 rue Corneille, Paris 6e, hein, c'est bien ça?
Exactement, juste à côté du Théâtre de l'Odéon.
Très bien, nous allons évoquer ensemble les différentes qualités de Beaufort, mais aussi de multiples façons pour le passer à la casserole. Vous nous avez préparé quoi? Juste un petit aperçu?
J'ai préparé des macarons de polenta à la crème de Beaufort,
oui.
Des petits muffins Beaufort pommes et noix.
Ah, ça vaut le coup.
Et des petits roulés pour l'apéritif qui mettent en avant tous les produits de nos producteurs de Beaufort. Parce qu'il y a de la viande, il y a de la ricotte et il y a du Beaufort.
Et il y a de l'ail des ours aussi.
Et il y a de l'ail des ours, ça c'est un clin d'œil à maman.
Une vraie spécialité terroir que vous allez nous raconter dans un instant. On retrouvera également notre reporter Stéphane Combe en Savoie, au contact des acteurs du Beaufort, des pâturages, jusqu'à l'affinage. Dans les fauteuils des chroniqueurs, notre libraire gourmande Déborah Dupont et notre chroniqueur vin Antoine Gerbel. Bonjour les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Déborah.
Une recette pas trop tarte et un peu tourte.
Oui, absolument, issu d'un livre que vous chroniquez pour nous. Antoine.
On me dit terroir très humide. Moi, je pense aussitôt, pas à la Savoie, désolé, à l'Auvergne.
À l'Auvergne.
Et au Jura.
On fait une infidélité à la Savoie en cette émission. Interagissez avec nous, chers auditeurs, via l'application mobile de France Inter ou en nous envoyant un mail à onvadéguster@radiofrance.com. Et pour retrouver nos adresses, recettes et aussi le podcast de l'émission, un seul chemin, franceinter.fr, à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant, chers amis, je vous fais découvrir un délice d'initié, une mascotte comestible de la Côte d'Azur. C'est un petit ravioli de forme rectangulaire avec une farce à la blette et frit dans l'huile d'olive. Alors je ne vous en voudrais pas de ne pas connaître cette spécialité parce qu'elle est assez locale et confidentielle, parfois même un peu oubliée. Barbajouan, ça vous dit quelque chose?
Absolument.
Barbajouan?
Non. Jouan les pains?
Pas loin, bah, je pense qu'il y a une petite relation. En tout cas, je suis vraiment ravi de vous coller. Vous connaissiez, chers amis savoyards?
On s'arrête jusqu'à la Drôme.
D'accord. Le Barbajouan sera originaire, figurez-vous, de Castelar. C'est un petit village à 7 km au-dessus de Menton. Et Barbajouan signifierait, dans le patois local, Antoine, oncle Jean. Voilà. Alors, on n'a pas d'autres détails sur cet oncle Jean, à qui l'on doit peut-être la paternité de ces raviolis, mais ce que l'on sait, c'est que ce sont les femmes de Castelard qui façonnaient les fameux barbajouins, ces petits raviolis, et qui partaient les vendre à Monaco. Aujourd'hui, ce petit coussin de pâte frite fait l'objet d'un culte de la part des connaisseurs, qui en partagent les secrets, les recettes, mais aussi les lieux de dégustation. Et il y a un barbajouin qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, c'est celui du chef Pierre Altobelli, à Nice. Pierre Altobelli s'est construit un CV en béton armé, notamment aux côtés de Jacques Maxime à Avance, de Pierre Gagnère à Paris, de Michel Troisgros à Tokyo. Il a aussi tenu, Pierre Altobelli, son propre restaurant, Pierre, à Osaka, une étoile Michelin. Puis il est revenu au pays pour reprendre, en plein Nice, à 500 mètres de la promenade des Anglais, Davia, l'auberge que sa grand-mère a fondée en 1953. Il y prépare une remarquable cuisine locale d'influence niçoise et ligure, soupe au pistou, petits rougets frits tout simples, des rougets de pêche locale, salade crue d'artichaut, tiens, on parlait d'artichaut la semaine dernière, il en fait une exceptionnelle avec quelques fèvettes de pays, et les fameux barbajouans que le chef farcit de blettes, de bourrache, de poireaux et de marjolaine. Tous les légumes et toutes les herbes aromatiques sont achetés chez des maraîchers bio du marché de la Libération. Il y met une touche de parmesan, tiens, petite touche fromagère, un peu de ricotta qui est fabriqué à Nice par l'artisan Fabio Mera. Ça donne une consistance, cette ricotta, une consistance vraiment extraordinaire à la farce de ce barbajouan. Car la grande réussite d'un barbajouan, c'est d'allier le croustillant de la pâte et le moelleux de la farce. Ceux-ci sont vraiment des exemplaires absolument extraordinaires, une version vraiment stupéfiante de ces barbajouans. Les barbajouans de Davia, 11 bis rue Grimaldi. Alors renseignez-vous avant parce que comme c'est beaucoup de boulot, c'est un gros travail manuel d'envelopper, il y a un travail de pliage, etc. pour ces barbajouans. Il faut quand même se renseigner avant de s'y attabler dans l'espoir de les déguster. Voilà les barbajouans de Davia à Nice. Derrière la console, en direct, Laurent Thomas, Charles Pellamon et Nadia Chougui. Le retour de Winston McAnuff, chanteur de reggae jamaïcain avec le collectif Ina de Yard pour le titre Malcolm X, choisi par Djoubaka.
Attention !
Dans un instant, on voyage en Savoie à la découverte d'un fromage en or, le Beaufort. Bon appétit sur France Inter.
Searching the vine.
happiness along with the beat. Till you, my brother, see. Hidden brutality, yes. Hidden brutality, yes. Hidden brutality, yes.
Watch it.
Hidden brutality.
Le Beaufort sur un plateau en ce dimanche 19 mai. On est en compagnie d'Yvon Baucher et de sa fille. Vous êtes très impliqué dans la filière Beaufort. Alors Beaufort, avant d'être un fromage, on ne le sait pas forcément, c'est d'abord un village.
Et puis c'est une petite vallée qui est située à côté de la grande vallée de la Tarentaise où il y a toutes les grandes stations et à côté de la vallée de Megève, Praz-sur-Arly où il y a les stations de renommée également mondiale. On est au pied du Mont-Blanc.
Département de la Savoie.
Département de la Savoie, exactement.
Combien d'habitants à Beaufort?
Tout à côté d'Albertville.
Oui, bien sûr.
On garde toujours le souvenir des villes olympiques et on est à 15 km d'Albertville. Très peu d'habitants, mais à peu près 4000 habitants dans le canton, 2000 sur la commune de Beaufort.
Et une zone de production bien précise qui couvre 400 000 hectares dans l'est du département de la Savoie?
Voilà, c'est toute la zone de haute montagne de la Savoie qui comprend les vallées du Val d'Arly quand on part sur Praz-sur-Arly, qui comprend la vallée du Beaufortin et puis la vallée de la Tarentaise et la vallée de la Maurienne.
C'est ça. Précisons d'emblée que la filière Beaufort, ce sont 403 exploitations laitières, 750 emplois directs, 250 emplois liés à la production de Beaufort, de l'affinage jusqu'à la commercialisation. On va parler de la formidable réussite de cette appellation fromagère. Mais je vous propose d'aller prendre le pouls tout de suite du Beaufort, dans les pâturages de Beaufort, en compagnie de André Blanc-Gonnet. Vous le connaissez bien?
Très bien.
C'est un voisin, c'est ça? Il est éleveur de vaches. Vache de race tarine, et attention, ça va faire...
On va carrément aller les voir dans le pré, on va les toucher, on va les... Vous allez voir comme là, leur jolie couleur. Alors attention, ne touchez pas le fil. Là, il y a la clôture, il y a le courant. Vous voyez, elles sont au milieu de l'herbe, d'une belle herbe verte. Regardez-les. Elles sont tout autour de nous, elles sont heureuses comme tout. Hein, elles nous regardent, vous voyez, des vaches calmes, des vaches qui sont tranquilles, des vaches qui sont plus qu'heureuses, oui. Quand c'est le moment du repos, par exemple, les vaches ruminent. Donc une vache qui rumine, c'est une vache qui est en bonne santé. Le nez humide, vous voyez son nez. Regardez son nez.
Ses nasaux sont humides.
Voilà.
Ouais.
Alors ça, c'est un signe, de bonne santé.
Hop, elle me lèche la main.
Et ça, c'est un signe de bonne santé. Puis l'œil vif, le poil lisse.
Vous avez combien de vaches?
Il y a 72 laitières. Et là, comme vous pouvez voir, là, nous, c'est que des prairies naturelles. Vous avez de tout. Vous avez du pissenlit, vous avez du régras, vous avez du trèfle. Et puis c'est très très bon pour la production laitière. Il nous faut une matière azotée, une matière grasse le plus équilibrée possible pour la fabrication du Beaufort. On va dire du 10 mai au fin octobre, elle rentre plein les tables. C'est l'avantage de nos races de montagne qui sont la tarine et l'abondance. C'est des races rustiques. C'est des petits gabarits, les vaches sont pas hautes sur pied. Et surtout des sabots noirs. Les sabots durs, donc c'est des vaches qui peuvent marcher, tout à fait pour marcher dans les pierres. Quand on est en alpage, il y a des rochers, il y a des petits chemins, c'est escarpé. Elles marchent le goudron. Quand on monte en alpage, vu qu'on fait la transhumance tout à pied, on part comme ça devant, on se met sur la route, on commence à les appeler, viens vite, viens, viens. Alors là, elles nous suivent. Là, les vieilles vaches sont devant, et c'est les vieilles qui mènent le troupeau, c'est pas les jeunes. Hein.
Alors là, elles sont dans la vallée, pas très très loin de votre ferme.
C'est ça.
Mais quand elles sont en alpage, comment vous faites, André? Vous restez en alpage?
On reste en alpage, on a un chalet aménagé, et puis donc on a une machine à faire mobile. On fait la traite matin et soir, comme à l'étable, sauf qu'on a une machine à traire où on suit le troupeau. Vu qu'on est très haut en altitude, l'herbe ne montera jamais très très haut. Mais par contre, c'est de la petite herbe, toujours verte, et qui est excellente pour la production de lait, et surtout pour notre fabrication de fromage, quoi, de Beaufort.
Elles ont l'air d'être contentes de vous voir.
Elles sont très très contentes, puis elles sont habituées à nous. Vous voyez, on arrive, là on ouvre le fil, elles vont rentrer à l'étable toutes seules. C'est l'avantage qu'on a, un contact avec les animaux, qui, je pense, aujourd'hui, se perd un petit peu dans les grandes étables en plaine. Nous, vous voyez bien, on est là au milieu, elles sont toutes autour de nous.
Ça meugle sévère, quand même, dans le pré d'André Blanc-Gonnet. La tarine, elle se fait entendre.
Ouais, ça fait entendre. C'est une vache de caractère, mais un peu comme les gens de la montagne.
C'est ça.
On a des races de vaches qui nous ressemblent.
Très rustiques, très endurantes.
Très rustiques, très endurantes, de taille relativement petite, parce qu'il faut qu'elles puissent passer partout, et puis qu'elles puissent exploiter les pâturages jusqu'au sommet des alpages.
Yvon Bauchet, vous êtes également éleveur de tarines, puisque vous en avez 90.
Oui, 90 laitières. Oui.
Et il faut préciser à nos auditeurs que les deux seules races alpines autorisées pour la fabrication de ce fabuleux fromage qu'est le Beaufort, c'est la tarine, mais également l'abondance. Alors l'abondance, ça donne également un fromage qui est l'abondance, on n'en parlera pas là, mais il faut pas faire la confusion. L'abondance, c'est avant tout, c'est une vallée, mais c'est avant tout évidemment une race bovine. Pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ont décidé d'aller en randonnée cet été dans les Alpes, en Savoie, par chez vous, donnez-leur un truc quand ils vont croiser comme ça ces bêtes au bord des chemins. Comment on identifie la tarine et l'abondance?
C'est très simple. L'abondance a deux couleurs. Nous on dit qu'elle est violette et blanche, mm-hmm. parce qu'elle a une robe qui tire plus sur le foncé. Mm-hmm. La vraie abondance, celle qui a pas été, qui est restée sur le terroir. Et la tarine, elle est monocouleur. On dit que c'est la vache du riche parce qu'elle est pas rapiécée.
Excellent. Les laits que produisent ces vaches précisément, est-ce qu'entre les deux races, il y a une différence de qualité?
Non,
au taux de matière grasse, par exemple, aux qualités organoleptiques de ces laits crus qui sont ensuite utilisés pour la fabrication du Beaufort?
Non, ce sont des races qui sont vraiment adaptées au système d'exploitation qu'on a, c'est pas le hasard. C'est vraiment des races rustiques qui permettent d'exploiter les difficultés qu'elles vont rencontrer tout au long de l'été et de l'alpage. Elles vont exploiter au mieux ce qu'elles vont trouver dans les pâturages. Après, ce qui fait vraiment la différence de qualité du lait, c'est vraiment le pâturage et la qualité du pâturage et des herbages qu'elles vont trouver.
C'est ça. Alors, justement, la première étape, c'est évidemment la production du lait. Qu'est-ce qu'il va devenir ce lait, le vôtre, celui que vous produisez quotidiennement, mais également celui d'André Blanc-Gonnet? Il faut déjà préciser qu'il est cru, car oui, le lait cru, c'est important, on se bat pour depuis des années dans cette émission. Le lait cru est constitutif du Beaufort, pas question de pasteuriser le lait, c'est évidemment, encore une fois, c'est une condition sine qua non.
C'est complètement, on travaille au lait cru avec une chance qu'on est, on est sur un fromage à pâte pressée cuite comme le comté. Donc il y a pas les risques sanitaires qu'on peut trouver sur des pâtes molles et on échappe pour le moment à cet aspect-là. Par contre, c'est une des conditions sine qua non. Il y a deux conditions en fait. La première condition, c'est de pas refroidir le lait et c'est de pas le réchauffer. Parce que chaque fois qu'on va avoir un choc thermique sur le lait, on va perdre des arômes. Mm-hmm. Et la deuxième condition, c'est de le travailler très vite derrière la production. C'est pour ça que même si on a un système coopératif et que le lait redescend dans la vallée, il est travaillé dans les heures qui suivent la traite sans être refroidi et il va directement dans les cuves.
Vous avez évoqué système coopératif, la coopération. Ça, voilà quelque chose, un outil qui est très intéressant dans la vie de nos productions agricoles. Qu'est-ce que vous entendez par là? Quand je vous demandais ce qu'allait devenir le lait que vous produisez et le lait que produit votre voisin André Blanc-Gonnet, ben il est en fait tout cet or que constitue ce lait cru est mis en commun et fabriqué dans des coopératives, des ateliers où on met en commun le lait de plusieurs producteurs.
Voilà, il est transformé en commun dans des ateliers coopératifs. Il y a 7 coopératives permanentes pour éviter que le lait soit trop déplacé dans les fonds de vallée. Et il est transformé 2 fois par jour pendant toute la période d'été. Il y a une période d'hiver où on fabrique beaucoup moins de lait, où il y a beaucoup moins de production, où on va travailler ce lait uniquement 1 fois par jour. Mais les seuls actionnaires, ce sont les coopérateurs, ce sont les agriculteurs. Il y a une définition pour moi qui est très claire de la coopérative, c'est quand on peut rencontrer le président dans la rue.
Ça
veut dire qu'on a souvent une idée négative sur les coopératives parce qu'on voit de très grosses structures. Chez nous, c'est pas le cas. Je veux dire, n'importe qui peut passer à l'atelier. On connaît tous les fromagers, on connaît les gens qui travaillent pour nous, et il y a vraiment une symbiose.
De quand date ce système coopératif qui peut-être a un peu regardé du côté de ce qui se passait chez vos voisins chez vos cousins du comté?
C'est à peu près le système montagnard a toujours été un système collectif parce que c'était le seul moyen dans des pays qui étaient très difficiles de s'en tirer. C'est-à-dire il fallait s'appuyer les uns sur les autres et on a ce système qui ressemble à ce qu'on appelle les fruitières dans le comté, qui s'appelait au départ, puisque sur les productions d'alpage, on appelait ça les fruits communs. On rassemblait les vaches pour avoir un troupeau suffisamment important pour pouvoir faire ce gros fromage qu'est le Beaufort.
C'est ça, la fruitière.
Il faut au minimum 400 litres de lait pour faire un Beaufort. Et ça, c'est resté ensuite. Et les systèmes coopératifs sont arrivés pour de Beaufortin au moment des barrages, dans les années 60, 61 pour la naissance de la coopérative de Beaufort, et les autres sont faites dans les années qui ont suivi.
C'est ça. Il existe quand même, évidemment c'est difficile de faire du fromage fermier dans ces conditions-là, puisque le fromage fermier utilise le lait d'un seul troupeau et est transformé par la personne qui possède ce troupeau, mais il existe quand même, Alice Bochet, dans l'univers et dans les différentes qualités de Beaufort, un Beaufort fermier, c'est-à-dire un Beaufort, encore une fois, fabriqué à partir du lait d'un seul troupeau.
Exactement, c'est le Beaufort Chalet d'Alpage,
oui,
qui est du coup fabriqué uniquement en été avec le lait d'un seul troupeau, mm-hmm, par l'alpagiste dans son chalet. C'est une production qui est très petite au niveau de la totalité des Beauforts qui sont produits chaque année et uniquement estivale. Donc les agriculteurs qui produisent leur Beaufort Chalet d'Alpage en été sont quand même coopérateurs en hiver d'une coopérative de la vallée dans laquelle ils sont. Nous par exemple, on a du Beaufort Chalet d'Alpage dans le Beaufortin qu'on vend en ce moment au magasin, ce qui est assez exceptionnel puisqu'il n'est pas produit par notre coopérative.
Tout à fait. On en a d'ailleurs un petit échantillon dans l'assiette sous nos yeux.
Oui. On va
le goûter.
Alors c'est un Beaufort d'été, donc oui, les vaches sont dans les pâturages. Et il est du coup très fruité parce que, mm-hmm, c'est de l'herbe fraîche, c'est, mm-hmm, des fleurs. Après, comme tout fromage fermier, la qualité est beaucoup plus variable que dans un Beaufort de coopératif.
C'est comme si c'était, pour faire une comparaison avec le vin, excusez-moi Alice, un fromage parcellaire en quelque sorte. Mm. C'est-à-dire que c'est vraiment la photographie d'un morceau de terroir.
Le vivant, le changeant, voilà. Oui, tout à fait.
Exactement. L'avantage des coopératives, c'est que comme on mélange le lait de plusieurs troupeaux, si les qualités des pâturages diffèrent, au final, on a un Beaufort d'une qualité homogène, parce que tout ça s'équilibre. Sur un Beaufort chalet d'alpage, on en a des exceptionnels quand le pâturage est exceptionnel, et parfois la qualité est un petit peu moindre quand le pâturage est moins bon, mais ça reste un Beaufort fermier, un produit d'exception en toute petite quantité et qu'on aime proposer à nos clients.
Le cahier des charges autorise quelle altitude pour le chalet d'alpage? On est dans quelle...
Alors, le chalet d'alpage, l'altitude, c'est l'altitude des alpages, ça commence vers 1500, 1600 mètres, et après ça se termine suivant les vallées. Quand on va sur la vallée de la Tarentaise ou la Maurienne, les alpages ont tendance à monter plus haut que sur le Beaufortin, mais on monte jusqu'à 2300, 2400 mètres à peu près, jusqu'au bout de l'herbe.
C'est ça, absolument. Le Beaufort a un fromage au lait de vache, on l'a dit, à pâte pressée cuite. On peut dire qu'il fait partie de la grande famille des Gruyères, dans laquelle on trouve aussi également le Comté. Alors comment le distinguer? C'est pas toujours simple. Il y a un truc pour reconnaître le Beaufort assez aisément sur l'étal du fromager. C'est son talon concave. Vous savez, le Comté a un côté bombé. Eh bien, le Beaufort présente un talon incurvé. Pourquoi donc cette coquetterie presque physique? Élément de réponse avec Pierre Laurent, directeur de la coopérative laitière de Beaufort.
Alors en fait, on a un talon concave sur les Beauforts. C'est hérité des alpages autrefois. Les alpages n'étaient pas mécanisés et pour redescendre les fromages en bas dans la vallée, il fallait lier sur les bas des mulets. Et donc les anciens avaient fait ce fromage particulier avec ce talon particulier avec un creux pour passer la corde, pour la mettre sur le bas des mulets.
Malgré tout, vous gardez la corde, hein, toujours. Ouais. Au moment de la réalisation du fromage, vous gardez une corde tout autour de la meule de fromage.
Alors, il y a une corde autour du cercle de Beaufort. C'est toujours le même cercle qui avait été fait à l'origine. Hein. Donc, c'est un héritage du passé. On a souhaité le conserver, puisque le Beaufort fait partie de la grande famille des Gruyères. Et ça nous permet de nous différencier des autres fromages à pâte pressée cuite.
Talon, concave, est-ce que ça a une influence sur le goût, l'idée de cercler ces meules de Beaufort avec un corset en bois?
Alors le bois a une influence, dire le contraire ce serait une négation, mais l'influence du bois c'est qu'en fait il va garder la température, et un des éléments vraiment très importants quand on fait le Beaufort, quand on sort de la cuve et qu'on va commencer à le presser, c'est que la température baisse progressivement mais lentement, et le bois a cet effet isolant. Mmh. Qui permet de préserver. C'est une des raisons pour lesquelles on a gardé ce cercle en bois qui pose bien des inconvénients par ailleurs, puisqu'on a des meules qui ne sont jamais rondes. Elles sont souvent ovalisées parce qu'à l'endroit où on resserre ce cercle, eh ben, ça presse un petit peu le fromage.
C'est ça.
Mais ça fait partie du Beaufort et de son histoire.
Et ce qui fait partie de l'histoire du Beaufort, c'est également de le cuisiner. Alors moi, je vous propose quelque chose, on va faire, puisque la chronique vin d'Antoine Gerbel approche à grands pas. Faites-nous goûter, Alice Bochet, quelque chose que vous avez l'habitude, moi je vous propose, que vous avez l'habitude de faire à la maison. Je vous propose peut-être de rendre hommage à votre maman.
avec les petits roulés à l'ail des ours et à la viande de bœuf séchée.
Pourquoi pas ?
C'est un hommage à toute ma famille, du coup, recette familiale. Les producteurs de Beaufort, dans le Beaufortin, ont aussi, gèrent aussi directement l'abattoir
oui.
et valorisent la viande produite par leurs troupeaux.
Car ces vaches, même si elles sont heureuses dans leur pré, elles finissent par être réformées et elles finissent aussi en steak, hein, en viande.
Ah, clairement, c'est la loi de la nature telle qu'on la pratique, avec tout le respect que vous avez pu voir en écoutant André Blangonès sur ces vaches. C'est vraiment, il y a vraiment, on peut dire presque de l'amour vis-à-vis de son troupeau, vis-à-vis de ses vaches. Mais il y a un turnover qui est à peu près, on renouvelle à peu près le quart du troupeau chaque année.
C'est ça.
Et les animaux sont transformés directement sur place, ce qui permet de limiter les déplacements, ce qui permet d'avoir encore une fois un atelier à taille humaine qu'on gère nous-mêmes, sur lequel on va chercher la plus-value sur les produits.
C'est ça, donc la viande de tarine ou d'abondance, ça existe aussi ?
Exactement, donc elle se vend fraîche, en sous-vide, mm-hmm. pour faciliter sa conservation, et aussi sous la forme que je vous ai apportée, en viande de bœuf séchée, donc parfait pour les raclettes, les plats fromagers, et aussi dans cette petite recette, qui est un petit rouleau, avec un bâtonnet de Beaufort au centre, mm-hmm. entouré dans une tranche de viande de bœuf séchée, recouverte, d'un mélange de ricotta et d'ail des ours.
Génial.
Puisque l'ail des ours est un produit très, très local aussi, qui pousse dans les sous-bois et qu'on a l'habitude de cuisiner au printemps.
Que peuvent consommer les vaches d'ailleurs ? L'ail des ours ?
Non. Non.
C'est une plante qui est donc. C'est un ail sauvage dont on n'utilise que la feuille, qui ressemble à une feuille de muguet.
Absolument.
À ne pas confondre, puisque ça pousse à la même saison et dans les mêmes endroits.
Le muguet est toxique.
Voilà. Mais ça se reconnaît très facilement à l'odeur l'ail des ours.
Oh, c'est bon.
Et donc là, pour l'adoucir un petit peu, je l'ai mélangé à de la ricotte. Ricotte qui est aussi produite par nos producteurs de Beaufort.
Wow.
Qui finissent de valoriser toute leur production en transformant la ricotte en différents produits, dont... Voilà.
Bravo, recette totalement locavore, un bâtonnet de Beaufort enroulé comme ça dans une feuille. On va dire que la viande séchée de Beaufort est une cousine de la viande des grisons.
Exactement, mais la viande de grison, c'est suisse. Mmh. Et nous, c'est un produit savoyard.
On est d'accord. J'essayais juste de donner quelques analogies pour nos auditeurs.
C'est tout à fait ça. C'est juste le nom qui change. L'idée est exactement la même.
C'est une très belle idée, hein. Pour un apéro.
Et effectivement, la ricotte donne du moelleux.
Oui.
C'est-à-dire, on n'aurait pas ça pourrait être un peu sec, alors que là, ça enrobe et ça donne une longueur en bouche, c'est vraiment très agréable.
Très, très intéressant. Est-ce que notre ami Antoine Gerbel tente
un accord?
On va le voir tout de suite.
On va déguster sur France Inter.
Mais qu'est-ce que vous faites ? Non mais je rêve. Vous avez apporté un cubi sur le plateau dont on va déguster.
Eh oui, c'est l'heure du cubi. Alors cette chronique, elle m'a donné des envies énormes. Bon déjà parce que mon patronyme, je rappelle Gerbel, c'est un village juste de l'autre côté de la Savoie, puisqu'on est dans le Val d'Aoste.
Voilà.
Et mon grand-père a élevé aux vaches et moi aussi, et donc et surtout aux petits vins blancs, ces petits vins blancs de montagne des fois qu'on a mis du temps à comprendre, et aujourd'hui je suis ravi puisque les vins de montagne sont en grande forme. Alors je ne vais pas parler de la Savoie, peut-être qu'on aura l'occasion dans pas très longtemps d'aller faire un tour du côté d'Annecy.
Oui.
Donc nous aurons
qui est plutôt Haute-Savoie, mais
Haute-Savoie, mais le grand Savoyard, Haut-Savoyard, voilà. Et Savoyard se partagent ce beau pays. Et donc j'ai pensé à des propositions différentes. La première proposition, j'ai pensé à l'Auvergne, mais l'Auvergne telle qu'on la connaît pas, c'est-à-dire carrée, violette, avec un petit bouchon au bout.
Oui.
Je veux parler des nouveaux habillages qui existent aujourd'hui de plus en plus dans les vins de qualité, qu'on appelle les BIB. Acronyme de Bag in Box. Tout simplement, c'est cette petite révolution qui est arrivée il y a un bout de temps dans le monde du vin, mais qui n'est pas encore arrivée dans le milieu des vins de qualité. C'est resté, on va dire, dans les petits vins de table, les petits vins pas chers. Donc, c'est la brique, la fameuse brique, l'ancien cubiténaire qu'on met dans le frigo. Ça fait 1,5 litre ou 3 litres. Et ça a beaucoup d'avantages aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a l'avantage d'être écologique puisque vous avez 3 litres, donc 3 kilos de vin et non pas qu'à plus de 4,5 kg comme avec une bouteille. Vous savez que pour le verre, c'est très beau, mais c'est très calorifère, calorifuge, ça demande beaucoup d'énergie.
Énergivore
principalement. Alors que là, nous avons que du carton autour et une petite poche qu'il faut encore travailler puisqu'elle n'est pas encore recyclable complètement.
Elle est en matière plastique.
Mais enfin, c'est bien supérieur au niveau écologique que la bouteille. Et surtout, ça correspond, je vous rappelle, à ce chiffre, 80% des vins blancs sont bu un an après leur mise en bouteille. C'est-à-dire que cet univers du vin blanc, du vin rosé aussi, bien évidemment, et des petits rouges, ne demande pas forcément cette chaîne d'embouteillage, ce long travail, on va dire, de mise en bouteille et de coûts qu'on paye, puisqu'à un quart de la bouteille, et c'est le verre, hein, c'est je vous rappelle, c'est quand même très important, et le bouchon. Donc voilà, j'ai choisi ça, ça s'appelle Bibovino. Alors oui. Bibovino, c'est une nouvelle petite aventure signée par un caviste sommelier qu'on connaît bien, qui s'appelle Bruno Queneau, un grand personnage du monde du vin en France, qui a dirigé des grandes caves, qui a surtout pris très tôt la voix et le porte-parole de la biodynamie. Aujourd'hui, il a un peu changé. Enfin, en tout cas, il met en avant des vins à peu près partout, de qualité. Il a une chaîne de cavistes, il a une cave qui s'appelle Filovino. Il est surtout aujourd'hui le sourceur de cette aventure. Il y a des caves à peu près partout en France, une vingtaine. On retrouve ça aussi chez lui et dans quatre caves à Paris. Alors Bibovino, c'est toute une gamme. Il y a du vin de Loire, mais il y a surtout des grands vins. Il y a du Condrieux en bag-in-box, il y a du Pommard en bag-in-box, il y a du Pomerol en bag-in-box. Et c'est ça qui est intéressant dans cette proposition. Et les prix sont assez sages. On est vraiment en début de gamme dans cette famille-là, sauf que les vignerons sont vraiment très bons. Alors voilà, moi j'ai choisi chez lui une collection qui s'appelle L'eau et le feu. C'est un Côte d'Auvergne, donc ça coûte 23 € les 1,5 litre.
Ça se boit vraiment tout seul. Hein.
Donc ça fait exactement 11,50 € la bouteille, qu'on achète pas en bouteille. Ça se garde un mois, j'ai fait l'essai, ça reste très très frais. Bien évidemment, faut pas vider intégralement le premier jour la poche, parce que l'oxydation arrive, mais on est bien évidemment bien protégé. C'est très intéressant. Je parlerai dans cette même famille, je viens de découvrir, ça s'appelle Vigneron en boîte. Alors là, l'idée est un peu plus poussée, parce que c'est carrément que des vins en bio, que des vins en biodynamie, et même des vins nature. On retrouve Fred Palacio, un grand vigneron du sud-ouest, il y a les Cahors de Mas del Pré. Ça, je vous conseille vraiment de découvrir ça. Ça se lance, là, c'est en ce moment, ça s'appelle Vigneron en boîte. Tout ça, des signes.
Et Bibovino de Bruno Queneau, ça peut se commander en ligne.
Tout ça se commande en ligne et ça se transporte très très bien. Il n'y a pas de casse. Les poches sont vraiment. En plus, il y a un côté thermo bien étudié. Donc les vins ne supportent pas trop le choc de température pendant les transports. Alors ça, c'était pour parler des jeunes, de l'été et même de l'hiver. Je savais que vous allez nous amener sur le terrain parce qu'on dit souvent que le Beaufort, on le sert plutôt jeune et il n'y a pas vraiment de Beaufort d'âge. Or là, je vois dans mon assiette un Beaufort un peu plus âgé.
Oui.
Et là, j'ai pensé au Jura. Alors bien évidemment, clin d'œil, Jura, le comté, oui. L'association avec les vins du Jura. Mais j'ai pensé à un vin de voile. Donc vous savez, c'est ce process qui fait vieillir typiquement les vins de Savagnin et de Chardonnay dans le Jura très longtemps, qui le protège, qui lui donne une légère oxydation. Mais je vous ai trouvé un vin de voile, encore une fois, pas complètement vin de voile et pas complètement vin jaune. C'est un simple Côte du Jura, Chardonnay Savagnin du domaine Labbé, s'appelle les Singuliers, et c'est un vin de voile seulement de 3 ans. Donc c'est le moitié du temps légal d'un vin jaune. Et c'est plus subtil. Et donc j'ai, avec le Beaufort qui est plus subtil aussi, il y a moins le côté salé que dans les comtés, il y a moins le côté granuleux dans les vieux comtés qui demandent la force d'un grand vin jaune. Là, c'est simplement un vin de voile, c'est un intermédiaire qui joue vraiment le jeu Chardonnay Savagnin. Donc encore une fois, deux Chardonnay je vous ai présenté parce que je pense que le gras de ce cépage fonctionne comme très très bien avec tous les produits laitiers, particulièrement les pâtes pressées. C'est un 2015. Alors ça coûte un petit peu cher, ça coûte 23 €. Mais dites-vous que 3 ans d'élevage dans une cave, quand vous perdez au moins 25 à 30% de la production par évaporation et que vous laissez ce vin voilà tranquillement faire, c'est très pur, c'est fin, c'est floral. Voilà, c'est bien évidemment un peu noix, un peu curry dans cet univers qu'on connaît du vin jaune. Mais quand même, c'est une très grande bouteille. Pour 23 €, je vous assure que je ne trouve absolument pas ces sensations, ces poils qui se dressent quand je goûte un grand Bourgogne de premier cru, encore une fois, ou même un grand vin de Loire blanc, à ce prix-là, je le rappelle. Voilà, ah oui. Domaine Labbé,
tout à fait,
les Singuliers, Chardonnay, Savagnin, 2015, vin de voile.
Très bien, qu'est-ce que vous revendiquez comme accord, Beaufort, vin, Yvon Bauchet?
Je bois les paroles parce que clairement, sur un Beaufort, je mets un Savagnin.
Et oui, voilà.
Clairement, c'est l'accord. Je ne vais peut-être pas me faire des amis chez mes amis viticulteurs en Savoie en disant ça, mais le Savagnin, c'est vraiment le cépage qui magnifie le Beaufort comme il magnifie le Comté.
Mais il est vrai que parfois on se moque un peu de vous dans d'autres appellations, dans le comté, on dit ah oui mais dans le Beaufort ils savent pas vieillir, ce fromage-là ne sait pas vieillir. Quel est l'âge optimal pour déguster le Beaufort ?
Alors c'est un fromage qui n'était pas fait pour vieillir à l'origine. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Le Beaufort c'est un fromage qui était fabriqué l'été pour être consommé l'hiver. Ça veut dire 6, 8, 10, 12 mois maximum de vieillissement. Et on a fait face à cette mode qui a été lancée un peu sur les vieux fromages.
Oui.
Il y a très peu de Beaufort. Et effectivement, le Beaufort supporte moins l'âge qu'un comté.
Mais là, deux ans, c'est
comme mais malgré tout, on peut en sélectionnant des fromages. Il faut sélectionner au fur et à mesure. Et encore, il faut avoir vraiment cette notion de tri. On arrive à conduire des fromages jusqu'à l'âge de 2 ans qui correspondent à une demande. Il ne faut pas aller sur tous les fromages à cet âge-là. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Moi, je fais toujours le comparatif avec les vins. Il ne suffit pas qu'il y ait une année de marquer sur une bouteille de vin pour qu'il soit bon. Il y a des vins qui peuvent vieillir, il y a des fromages qui peuvent vieillir. C'est la différence entre un bouquet fleuri et des fleurs fanées.
Et ce côté floral, on le perd aussi avec le temps. Donc c'est quand même un des atouts quand même de cette famille de fromages.
Oui. Je pense. Alors, on a cette chance d'avoir de pouvoir être dégusté à tous les âges. Vous pouvez avoir un Beaufort avec un goût très doux qui correspond à certains goûts de clients, et puis aller sur des goûts plus marqués, plus rustiques à certains moments, parce qu'on a ce goût effectivement de pierre presque qui ressort, qui va remplacer un peu ce goût de noisette qu'on aura sur des choses très florales. Mais faut aimer les deux. Et je vous conseille d'avoir un très bon vin avec quand vous prenez un vieux Beaufort, et puis surtout un très bon pain.
C'est ça, on est bien d'accord, le pain, il ne faut pas l'oublier. On va continuer surtout aussi à cuisiner le Beaufort et puis se poser cette question. Pourquoi les opérateurs industriels ne réussissent-ils pas à faire la pluie et le beau temps dans une appellation comme le Beaufort? En d'autres termes, pourquoi le Beaufort reste d'une vraie belle qualité artisanale orientée vers la production, la protection des traditions et du terroir? On en parle juste après Bleu de Kerenan.
Dos contre dos dans des draps exquis, chambre sur rue embuée de whisky. Rien ne vaut ce lourd silence qui vient bercer mon imprudence. Tu m'as connu dans les bras d'un autre, là tu me connais au millimètre. La conscience peut m'embarrasser, mais je suis lâche, je veux pas laisser ce regard bleu.
Ce regard bleu,
On parle Beaufort en ce dimanche 19 mai. Il y a pas mal de questions de nos auditeurs sur l'application mobile de France Inter et sur notre mail. On va déguster à radiofrance.com. Déborah Dupont.
Oui, et notamment Stéphane qui se pose une question par rapport au foin qui peut être utilisé l'hiver. Est-ce que ce foin vient obligatoirement de la zone ou est-ce que ça peut être du foin qui provient d'ailleurs?
Eh ben, ça tombe bien, on a le président de la filière avec nous.
Alors, le foin vient en partie d'ailleurs, pour la bonne et simple raison qu'on a des fonds de vallée qui sont très étroits et des grandes surfaces en alpage, et l'exploitation se fait en fonction des alpages. On a résolu cette problématique en disant simplement, il y a une période de l'année, pendant trois mois, où les vaches ne produisent pas de lait, parce qu'elles vont faire leur veau, elles sont en période de repos, c'est un peu le congé maternité des vaches, et pendant cette période-là où il n'y a pas de production de lait, on peut tout à fait les alimenter avec du foin qui vient de l'extérieur de la zone.
Et
d'où plus les éleveurs achètent du foin, et plus ils doivent produire leur lait l'été. Ça veut dire que quelqu'un qui achèterait, il y a un minimum de 20% de foin qui doit être produit dans la zone, mais quelqu'un qui ne ferait que 20% de son foin devra faire des vélages que sur le printemps et une production de lait que sur l'été à partir de l'herbe.
Précisons que l'ensilage est interdit dans le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée. Définition de l'ensilage, on parle de fourrage fermenté.
Tous les produits fermentés sont interdits. On travaille qu'à partir de matières premières qui sont nobles, comme les céréales, les fourrages secs.
Vous n'avez jamais cédé à la tentation du... Parce que globalement, le fourrage fermenté, enfin l'ensilage, c'est une solution de facilité qui permet de produire plus de lait, mais qui en général n'a pas un très bel impact sur les qualités aromatiques du lait.
Alors moi j'ai un souvenir d'enfant, et je vais faire très court, quand vous donnez des queues de poireaux aux vaches, voilà, le lendemain le lait il est imbuvable parce qu'il a le goût du poireau. C'est pas que j'aime pas les poireaux, mais c'est qu'une vache c'est une passoire. Oui. Vous lui donnez à manger des aliments, elle va vous rendre
la pulpe
concentré
de betterave.
Exactement, les arômes qu'elle a ingérés. Mais c'est à la fois une passoire et après on concentre ces arômes à l'intérieur du fromage. Donc imaginez la chaîne que ça donne et les goûts qu'on aurait sur les fromages.
Romain Massias nous demande s'il existe, c'est une très bonne question, un Beaufort biologique.
Non, il n'existe pas de Beaufort biologique. Alors la question se pose entre les
vous
systèmes.
Vous n'êtes pas si loin finalement.
Alors, ça existe dans le comté parce que la production du comté c'est 60 000 tonnes et ils ont besoin d'avoir des comtés, des choses différentes à différents niveaux. Dans le Beaufort, la base de l'alimentation et la base de l'exploitation où on est sur des systèmes très extensifs se rapproche beaucoup du bio. Moi j'ai l'habitude de dire que nous on fait du bon. La vraie différence, c'est que pour faire un bon produit, il faut avoir une alimentation saine, il faut avoir des produits sains à la base pour l'alimentation des animaux. Et par là même, on est très proche du bio. Mais on ne revendique pas parce que rajouter des sigles sur des sigles, c'est pas forcément une bonne solution. Si on utilise plusieurs sigles, c'est qu'il n'y en a aucun qui a une valeur.
Et pour montrer évidemment le caractère vertueux de la filière Beaufort, un mot évidemment du dernier gros projet que vous avez porté, Savoie Lactée. Je laisse aux auditeurs le soin de réfléchir à ce jeu de mots. Savoie comme le département, Savoie Lactée, vous êtes engagé dans ce projet qui est véritablement une initiative modèle en matière de développement territorial durable.
Ouais, totalement. La Savoie Lactée va transformer le petit lait quand on fait du fromage. 90% du lait va être transformé sous la forme de petit lait qu'on appelle le lactosérum.
Absolument.
Et en fait, ce lactosérum était exporté vers des grands groupes laitiers. Un très grand groupe numéro un mondial très connu.
Lactalis, d'accord.
Voilà, tout à fait. Et on en retirait aucune valorisation. Mmh. Mais en plus, c'est un danger parce que par l'utilisation de ce lactosérum, eh bien, en fait, quelque part, il pouvait mettre un pied dans la filière et on tient beaucoup à notre indépendance. Donc, on a repris la main sur la transformation de ce petit lait. Derrière, on va retirer la matière grasse et on va faire du beurre. Il y a 6 grammes de matière grasse qui reste dans le lactosérum. Ça fait 300 tonnes de beurre au bout, qui est commercialisé dans nos magasins principalement. Et puis, il y a quelque chose de très intéressant qui est très à la mode, c'est les protéines sériques. Les protéines sériques, c'est les protéines des muscles, c'est le blanc d'œuf, en clair. Donc pour ceux qui font de la gonflette, mais aussi pour tous ceux qui veulent être en bonne santé, c'est très bien. Et on en trouve partout aujourd'hui. Vous en trouvez dans des boissons, vous en trouvez dans des produits lactés pour enrichir les produits lactés, vous en trouvez dans la biscuiterie. Et on a repris la masse sur cette partie-là. Et on transforme la totalité de ce petit lait. Et à la sortie, il reste encore un truc qui s'appelle le jus lactosé, qui est de l'eau sucrée. Et cette eau sucrée, on va la faire fermenter, on va la faire digérer à des bactéries qui vont produire du gaz, et avec ce gaz, on va faire de l'électricité qu'on revend à EDF, et on va utiliser la chaleur dans notre unité. Et au total, on a aujourd'hui une unité à Albertville qui traite la totalité
du petit lait
des coopératives. Alors j'aime pas le mot usine.
Oui, d'accord.
Parce que usine, on a toujours l'impression que c'est polluant, que c'est...
Bien sûr.
Et nous, on fait d'une part de la dépollution, puis d'autre part des très beaux produits. Et on est là, je pense, la seule usine qui produit plus d'énergie qu'elle en consomme en France.
et une réponse à l'effet de serre que l'on malheureusement on charge beaucoup les troupeaux aujourd'hui sur Terre.
Voilà, ça compense le pain des vaches.
Oui, absolument. Le Beaufort est un fromage de plateau, mais c'est aussi une formidable matière première pour les artisans de bouche locaux. Stéphane Combe a rendu visite à Cyril Suet, ou Suette ?
Suet.
Suet, il est pâtissier boulanger à Beaufort, dans une boutique qui s'appelle...
Les Croets.
Les Croets, oui. C-R-O-E-T-R-E-M-A-S. Et il fabrique une tarte au Beaufort qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès dans la région. Allez-y, en cuisine.
Donc pour la pâte, on a pris 250 g de beurre. 250 g de farine de tradition des Savoies, 50 g de farine de blé T170 bio, un peu de fleur de sel, de la levure chimique et quelques graines d'anniver.
Et vous avez mis ça dans une...
Dans un robot avec la feuille, ce qu'on appelle la feuille. Voilà. Et là, on fait tourner pour que l'ensemble soit bien sablé. Donc voilà. On va incorporer 25 g de jaune d'œuf et 250 g de Beaufort.
Et le Beaufort, il était râpé.
On a râpé le Beaufort avant. Avec un rouleau, on va abaisser sur un petit centimètre d'épaisseur quand même pour qu'on ait une bonne base. Il faut cuire avec le cercle parce que comme la pâte est quand même très grasse, si on ne met pas de cercle, ça va s'étaler à la cuisson. C'est exactement la même technique qu'un sablé breton. Donc là, je mets au four, 150 degrés. Et là, on est parti pour 20 minutes de cuisson à peu près.
Alors, là on est face à un piano.
On va démarrer.
Ça chauffe. Hein.
Ça chauffe, on va cuire les légumes, les brocolis et les petits poireaux à l'anglaise. Et on les servira à température, mais un peu vinaigré, pour apporter de l'acidité, parce que le sablé il est quand même assez gras, donc pour que ça soit assez équilibré en bouche. Les pommes de terre, on va les mettre à... Donc on les a cuits aussi à l'eau, les petites pommes de terre, on a gardé la peau, hein, pas s'embêter. Et on les cuit dans une petite poêle, j'ai mis une petite goutte d'huile d'olive. Un peu de fleur de sel pour la cuisson, une petite gousse d'ail. Et voilà, on met ça à cuire. On a des petites tomates qu'on confit légèrement avec une petite goutte d'huile d'olive. Ça va venir apporter un petit peu d'humidité à la tarte pour la dégustation. Le fenouil qui est cuit avec la poitrine, qu'on a émincé et remis à compoter dans une casserole avec des oignons cébettes.
Là sur le piano, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casseroles étoiles qui sont en train de cuire.
Parce qu'on a différentes cuissons à différentes températures. Donc là, on est sur la plaque. Après, on peut aussi simplifier la vie, tout faire dans une même casserole. On peut aussi travailler un peu plus tard dans la saison, sur l'été, avec une ratatouille, des choses comme ça. Ça peut être sympa. Voilà, tout arrive à cuisson. On va pouvoir finir notre tarte. Donc là, on prend notre compoté de fenouil, oignons cébettes et quelques petits bouts de tomates aussi dedans qu'on a mis à cuire. Mmh. On le met sur le sablé et venir le répartir. Nos légumes qu'on cuit à l'anglaise et on va venir les assaisonner. Enfin, là, c'est du vinaigre de xérès, petite goutte de sauce soja et un petit peu d'huile d'olive. Après, c'est pareil, on fait ce qu'on veut. Donc là, je viens en verser un petit peu comme ça sur les légumes là, avant de les mettre sur la tarte pour pas imbiber le sablé. Un petit peu de fleur de sel. Et un petit peu de poivre. Ça marche. Voilà, donc je répartis un petit peu des lardons. Ça, c'est notre territoire, quoi, le lard. Donc là, je viens mettre mes petits sommités de chou-fleur qu'on a cuit à l'anglaise, des petits brocolis.
Là, c'est garni, hein.
Là, il faut manger. Hein. Ça, c'est des produits qui viennent de chez le maraîcher, la famille Guirand à Albertville. Pour continuer à faire un contraste sur les textures du fenouil, on en a travaillé un petit peu du cru aussi. Coupé à la mandoline fin et qu'on a mis à tremper dans de l'eau pour lui apporter un peu plus de croquant. Quelques petites rondelles de radis. Donc on va venir mettre quelques petites pointes de crème, deux tiers de crème, qu'on a fait chauffer, dans lequel on est venu incorporer un tiers de Beaufort. Hop, quelques copeaux de Beaufort pour voir le produit non travaillé. C'est terminé, on n'a plus qu'à déguster.
Pardon, je suis en train de la déguster justement cette tarte de Cyril Suet, car vous nous avez fait la surprise, Yvon Bochet, de nous l'apporter. En TGV, ça ne devait pas être facile.
Non, ça n'a pas été facile, mais surtout, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé ce que je transportais dans le TGV.
Qui vous regardaient de façon louche.
Oui, de façon louche, je devais me dépasser avec ma cuisine, je pense.
C'est ça. Imaginez un disque de pâte qui ressemble un peu qu'à l'épaisseur d'un sablé breton. C'est vraiment une pâte au Beaufort, mais qui est prodigieuse. Alors là, elle est coiffée de légumes de saison, etc. Mais on peut la garnir tout à fait autrement. La recette de ce disque de pâte au Beaufort, c'est une vraie belle réussite signée Cyril Suet, en ligne sur franceinter.fr. À la page On va déguster, on se régale autour du plateau dont on va déguster et on va se régaler encore plus avec Déborah Dupont.
On va déguster. Sur France Inter.
Il est aussi question de tarte Déborah et de Beaufort, mais d'une toute autre façon. Elle est très belle, hein. On dirait une tatin un peu.
Alors, c'est pas on dirait, c'est effectivement une tatin.
Mais pas de pomme, hein.
Mais pas de pomme, mais j'aime bien faire des tatins salés. Et là, je dois dire qu'un livre vient d'arriver aux éditions La Plage, qui s'appelle Tarte fine, oui. Grosse tourte et belle tatin, 200 tartes végétariennes. Puisque la particularité des éditions La Plage, ce sont des éditions qui portent haut et fort les couleurs du bio, du végétarien, voire même du vegan.
À fond, ouais.
Donc l'auteur est Cléa qui est de Grenoble, donc je suis pas allée chercher très très loin non
en
plus.
Isère, c'est en juste Isère,
en Isère, exactement. Pour trouver une recette de Beaufort, car effectivement, c'était pas très très simple en fait de trouver des livres de recettes avec du Beaufort. C'est peut-être lié au prix, on en parlera je pense après de ce fromage. Et donc là, dans ce livre en fait, il y a énormément de recettes donc qui sont salées ou sucrées à base de pâtes prisées, feuilletées, de pâtes à tours, de pizza, des versions sans gluten, il y en a vraiment pour tout le monde. Les recettes, ils sont classées par ordre alphabétique de légumes ou de fruits. On passe donc de l'asperge à la roquette, de l'abricot à la tomate, sans oublier un chapitre sur les tartes inclassables. Et pour le Beaufort, eh ben, il n'a pas fallu du tout que j'aille à la lettre B, mais à la lettre P comme poireau.
Ah oui, d'accord, c'était le poireau sur le devant de la scène.
Exactement, c'était le fameux poireau donc, que je n'ai pas fait manger aux vaches pour ne pas faire tourner leur lait. Mais une recette vraiment toute simple, où en fait il suffit d'émincer 5 poireaux en gros tronçons de 2 cm, de les faire pré-cuire 20 minutes à la vapeur.
Uniquement le blanc, hein, le fût.
Uniquement le fût, exactement le blanc, même si là j'ai mis un tout petit peu de vert clair, on va dire, mais les grosses feuilles partiront en soupe ce soir, ce sera bon. Parfait pour la météo. Voilà. Donc il suffit de faire pré-cuire donc des poireaux à la vapeur. Pendant ce temps-là, on prépare une pâte brisée à l'huile d'olive. Donc pâte brisée à l'huile d'olive ultra simple qui en plus n'a pas besoin de temps de repos. 180 g de farine bise. Donc la farine bise, c'est la T80, c'est de la semi-complète avec 50 g d'huile d'olive, ouais. 40 g d'eau. On mélange à la fourchette au début, ensuite on y va avec la main, on obtient très rapidement une boule, il suffit de l'étaler. Et une fois que les poireaux sont cuits, donc vous prenez un moule à tarte ou tarte tatin. Enfin moi j'ai la chance d'avoir un vrai moule à tarte tatin en fonte. Vous huilez le fond, vous mettez un peu de vinaigre balsamique, vous mettez vos tronçons de poireaux, vous rajoutez par-dessus 100 g de Beaufort en fines lamelles, un petit peu de cumin en poudre, votre abaisse de pâte, et ça part 35 minutes au four à 180 degrés. Ensuite, vous emmenez ça à la maison de la radio, ce qui est le plus pratique de la recette, bien évidemment. Vous démoulez sur le plateau, et voilà. Et c'est plutôt pas mal du tout, je trouve.
C'est vraiment délicieux, avec des accents de Beaufort, c'est tout à fait étonnant. Et cette pâte brisée, on peut remplacer l'huile d'olive par une autre huile champêtre, l'huile de colza.
Je pense effectivement qu'on peut mélanger, mais là, la qualité quand même gustative de l'huile d'olive, je trouve, s'accorde très très bien. Ensuite, effectivement, si on a magnifique. Autre chose, on doit aussi pouvoir mettre une petite touche de noisette. À mon avis, ça doit bien se marier. Enfin voilà, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Et puis la farine T80 donne un petit côté rustique qui, à mon avis, est pas mal du tout.
Splendide. Scone au Beaufort, c'est possible aussi de faire des scones au Beaufort.
C'est tout à fait possible de faire des scones au Beaufort.
Comment on s'y prend? Quelques étapes, Alice Bouget?
Juste pour rebondir sur les livres de recettes au Beaufort, le syndicat de défense du Beaufort, qui est un organisme absolument merveilleux qui nous permet de protéger notre AOP, a édité un très beau livre de recettes uniquement au Beaufort, dans lequel vous trouverez justement la recette des scones au Beaufort, la recette des muffins que j'ai apporté sur le plateau.
Oui, non, je voulais parler des muffins aux noisettes en fait. C'est...
Aux noix, oui.
Aux noix, aux pommes et aux Beaufort.
Comment on s'y prend pour ces muffins?
Alors c'est une recette toute bête de muffin avec 200 g de farine, 2 œufs, 50 g d'huile. En l'occurrence, j'ai utilisé de l'huile de noix pour rapporter le goût de noix. Avec 100 g de cerneau de noix, du Beaufort. Alors dans la recette, ils disent 200 g. Personnellement, j'en ai mis 300 parce que je trouve qu'il n'y a jamais trop de Beaufort. Voilà, j'ai choisi de mettre du vieux Beaufort pour que ce soit vraiment le produit qui soit mis en avant. Un sachet de levure et puis on mélange tout ça.
C'est très bon, c'est moelleux.
C'est très moelleux.
Vraiment, vraiment délicieux avec le croquant de la noix.
Et je l'ai essayé aussi avec en remplaçant la pomme par des myrtilles et les noix par des noisettes. Et c'était tout aussi formidable.
On parle du prix du Beaufort. Il y a pas mal d'auditeurs qui nous alertent sur ce sujet. Alors évidemment, c'est un produit de qualité, mais est-il vraiment cher le Beaufort?
Ça dépend où vous l'achetez. Si vous allez en Savoie, l'achetez directement dans les coopératives. Oui. C'est un produit à des prix tout à fait raisonnables. Si vous habitez à Paris, que vous pouvez pas vous permettre d'aller en Savoie toutes les semaines pour faire le plein de fromage, il y a notre magasin qui est donc dans le 6e arrondissement. On est en direct des producteurs, on n'a aucun intermédiaire. Ça nous permet d'avoir le Beaufort à des prix tout à fait raisonnables. On est concurrentiel par rapport au comté des fromageries. Donc vous pouvez cuisiner le Beaufort si vous venez l'acheter chez nous, il n'y a pas de problème.
Merci beaucoup à tous les deux. On n'a pas le temps d'évoquer malheureusement les industriels dans l'appellation, non plus le camembert, mais ce système de coopération est une très bonne protection contre les acteurs industriels qui voudraient s'infiltrer évidemment dans le cahier des charges. Merci Yvon et Alice Bochet. Alice, merci de nous rappeler l'adresse du magasin parisien de la coopérative laitière.
Alors, on est situé au 9 rue Corneille, dans le 6e arrondissement de Paris.
Très bien, la semaine prochaine, ça va saliver sur le plateau dont on va déguster. On vous fait découvrir deux jeunes talents de la haute pâtisserie française, Jessica Préal-Pateau et Maxime Frédéric. Eh bien, ils viendront cuisiner avec des ingrédients simples et un minimum d'ustensiles. Vous allez être soufflé par leur démonstration de cuisine sucrée. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.